Esprit, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Peggy Wabeno en direct de la capitale américaine. Mercredi 26 septembre 2018, Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir,
nouvelle violence au Burkina Faso, 8 soldats ont été tués par l'explosion d'une mine artisanale dans la région du Sahel.
Au Togo, la CENI a un nouveau président.
Évasion spectaculaire d'une prison au Cameroun.
Et à New York, Donald Trump critique encore l'Iran devant le Conseil de sécurité, mais le président français a exprimé son désaccord.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
8 soldats burkinabés ont été tués ce matin par l'explosion d'une mine artisanale aux environs de Baraboulé, dans la région du Sahel.
Les 8 soldats faisaient partie d'un convoi qui se rendait en mission de ravitaillement à Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Le véhicule de tête au départ de Baraboulé pour Djibo a sauté sur un engin explosif artisanal, a déclaré une source sécuritaire. L'incident s'est produit au sortir d'un pont dans cette région au nord du Burkina Faso. Ce pays sahélien, frontalier du Mali et du Niger, est confronté depuis 3 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dimanche, 3 gendarmes ont été tués dans un accrochage avec des individus armés près d'Inata, dans la même province du Soum, où 3 employés d'une mine d'or, un Indien, un Sud-Africain et un Burkinabé, ont été enlevés. De nombreuses attaques et explosions d'engins artisanaux visant les forces de l'ordre se sont produites ces derniers mois dans la région de l'Est.
Merci, Bagassi Koura.
Au Togo, dans les prochains jours, la coalition de l'opposition togolaise va envoyer ses représentants à la Commission électorale nationale indépendante avant que ses représentants prêtent serment et siègent. La coalition demande la suspension des travaux en cours à la CENI, notamment le recensement électoral. Le point avec notre correspondant Kai Lawson.
La coalition des 14 partis de l'opposition appelle au boycott du recensement électoral prévu pour démarrer le 1er octobre prochain. La coalition estime que les conditions actuelles d'organisation de ce recensement sont scabreuses et que les élections qui seront organisées dans ces mêmes conditions ne seront pas empreintes de qualité. Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la C14.
Cette CENI ne comprend rien et s'entête à vouloir organiser un recensement. Nous demandons aux populations de bien vouloir se tenir à l'écart de ce qui va être fait et qui sera une mascarade.
Lors d'une rencontre du comité du suivi de la feuille de route de la CEDEAO le 23 septembre dernier, la coalition a réussi à obtenir une recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi, elle a jusqu'au 30 septembre pour envoyer les noms de ses représentants au sein de la commission électorale. Toutefois, la C14 exige que le président de l'instance organisatrice des prochaines élections doit être une personnalité neutre ou au pire des cas d'une autre nationalité. Kailasson, Lomé, VOA Afrique.
Le président congolais Joseph Kabila a réclamé le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays, tout en affirmant le caractère irréversible du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, il a dit, et je cite, « 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. » Fin de citation. En janvier, Joseph Kabila avait déjà réclamé que la MONUSCO quitte le pays au plus tard en 2020. La MONUSCO, qui compte quelques 17 000 casques bleus pour un budget annuel d'un peu plus d'1 milliard de dollars, est l'une des plus importantes missions de la paix de l'ONU dans le monde.
Par ailleurs, en RDC, toujours 4 militants pro-démocratie du mouvement Filimbi ont été condamnés à 12 mois de prison pour offense au président congolais Joseph Kabila. Carbone Beni, Mino Bopomi, Grasso Tunza et Cédric Kalonji avaient été arrêtés fin décembre alors qu'ils mobilisaient pour une marche à l'appel d'un collectif catholique demandant au président Kabila de quitter le pouvoir. Aussi, sept activistes du mouvement Les Congolais Debout sont toujours détenus au secret. Ils totalisent 2 semaines de détention à l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, le porte-parole de leur organisation.
Toujours en République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Beni contre les récentes tueries attribuées aux rebelles ADF dans cette ville du Nord Kivu. La police a dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène au motif qu'ils n'avaient pas obtenu l'autorisation de manifester.
Et au Gabon, Yves Bouangas Issani, candidat aux élections locales du 6 octobre, a été relâché par ses ravisseurs. Porté disparu depuis 4 jours, il a été retrouvé hier dans la nuit. Coordonnateur provincial dans la province de l'Ogoué maritime, Issani avait reçu une menace de mort inscrite sur les murs du siège de son parti à Port-Gentil, vandalisé il y a une semaine.
Au Cameroun, plus de 100 prisonniers se sont évadés du centre pénitentiaire de Woum, situé à 98 km de Bamenda, dans la partie anglophone. L'évasion s'est produite suite à l'attaque nocturne de la prison par des hommes armés. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le mur arrière de la prison de Woum a été perforé par les assaillants. Ceux-ci ont par la suite pu accéder à l'intérieur de la prison, défoncer les cellules avant d'ordonner les prisonniers à vider des lieux, rapporte à VOA Afrique, une source administrative de Woum ayant requis l'anonymat. La scène s'est déroulée dans l'obscurité, selon une habitante de Woum jointe au téléphone par VOA Afrique. Elle témoigne avoir entendu des tirs de sommation dans la nuit. La localité de Woum ont confié plusieurs sources et sans eau ni électricité, avec un réseau téléphonique très instable depuis plus de 3 semaines. Ce qui a favorisé l'attaque de la prison, a commenté ce matin un responsable de parti politique de cette localité. Lors de l'attaque de la prison de Woum, environ 117 personnes y étaient en détention, affirment les sources administratives. Dans la matinée, les premières informations faisaient état de 82 prisonniers évadés. Le décompte des autorités pénitentiaires à mi-journée fait état d'un nombre plus élevé, au moins 100 selon une source locale. Cette évasion de prison a été revendiquée sur les réseaux sociaux par l'Ambazonia Restoration Forces, un groupe d'hommes armés favorables à la sécession de la zone anglophone du Cameroun. Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire également, les syndicats de l'administration pénitentiaire ont fait part de leur ras-le-bol face au manque de moyens. Ils dénoncent la surpopulation carcérale avec 18 900 détenus pour une capacité officielle de 7 000 places, soulignant que la MACA accueille 7 180 prisonniers pour une capacité de 1 200 à 1 500 places. Le préavis de grève déposé en juin 2018 avait été suspendu mais reste valable. Les pénitenciers ivoiriens demandent des états généraux du secteur.
Et Nigeria, l'aide de camp de Aïcha Bouhari, première dame du pays, a été placée en détention. Il est suspecté d'avoir extorqué près de 6 millions d'euros au nom de sa patronne, alors que la lutte contre la corruption était une promesse de campagne du président Mohamedou Bouhari.
En Libye, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, annonce la signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre milices rivales dans la banlieue sud de la capitale Tripoli. Le texte ratifié par le ministre de l'Intérieur stipule notamment le respect de l'accord signé sous l'égide de l'ONU depuis septembre et qui n'avait tenu que quelques jours. Il prévoit également la formation d'une force régulière mixte composée de policiers de Tripoli et de Tarouna pour sécuriser les divers quartiers de la banlieue sud de la capitale, théâtre de combat, au moins 110 morts depuis un mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président des États-Unis, Donald Trump, a dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'attitude de plus en plus agressive de l'Iran. Mais son homologue français est venu à la défense de Téhéran, Abdourahmane Dia.
Selon le président américain, malgré la signature en 2015 d'un accord sur le programme nucléaire iranien, Téhéran n'a pas cessé ses activités de déstabilisation de la région. Dans les années qui ont suivi la signature de l'accord, l'agression de l'Iran n'a fait qu'augmenter, a-t-il lancé. Donald Trump, qui s'est retiré de cet accord, a promis que début novembre, de nouvelles sanctions américaines viendraient s'ajouter à celles déjà en vigueur. De son côté, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la relation avec l'Iran ne pouvait se réduire à une politique de sanctions. Nous devons bâtir ensemble une stratégie de long terme pour la gestion de cette crise qui ne peut se réduire à une politique de sanctions et de confinement de l'Iran, a-t-il lancé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le dirigeant iranien Hassan Rouhani n'a pas pris part à cette réunion, mais a accusé hier Washington de vouloir renverser son gouvernement.
Et en marge de cette Assemblée générale, Emmanuel Macron et quelques dirigeants mondiaux se retrouvent aujourd'hui afin de tenter de réanimer l'accord de Paris sur le climat sans le président des États-Unis.
Et ici, aux États-Unis, une femme a accusé le candidat de Donald Trump à la Cour suprême d'avoir fait partie, dans sa jeunesse, d'un groupe de garçons qui tentaient de faire boire ou droguer des filles en vue d'abuser d'elles. Dans une déclaration sur l'honneur rendue publique par son avocat, Julie Swetnick affirme avoir été elle-même victime d'un viol collectif lors d'une fête où Brett Kavanaugh était présent vers 1982. En réaction, Brett Kavanaugh dénonce des calomnies de dernière minute. La commission judiciaire du Sénat tient demain une audience publique sur des accusations d'agression sexuelle contre le juge Kavanaugh.
Israël va devoir bien réfléchir avant de frapper en Syrie, a déclaré le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, alors que la Russie a annoncé son intention de renforcer la défense antiaérienne de l'armée de Damas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que transférer des systèmes armés sophistiqués dans des mains irresponsables allait renforcer les risques dans la région. Lundi, Moscou a dit vouloir renforcer la défense antiaérienne de l'armée syrienne une semaine après qu'un avion russe a été abattu par erreur par les militaires syriens dans la foulée d'un raid aérien israélien en Syrie. L'incident a causé la mort de 15 militaires russes à son bord et provoqué des tensions entre la Russie et Israël.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
En Centrafrique, le SEG International, groupe libanais immobilier et de BTP, vient de décrocher, via sa filiale marocaine, un contrat de 98 milliards de francs CFA pour la construction de 5 000 logements sociaux dans le pays. Le démarrage des travaux est prévu pour novembre prochain à Bangui et dans d'autres villes. En raison des tensions armées, de nombreux logements ont été détruits. Selon les autorités centrafricaines, les besoins en logement sont passés d'environ 500 000 avant la crise à environ 1 million aujourd'hui. Le Ghana envisage d'émettre sa première obligation du siècle de 5 à 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Selon le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori Atta, cette émission devrait permettre au pays de rembourser sa dette et combler le déficit de 7 milliards de dollars de son budget tout en exécutant plusieurs projets de construction d'usines. D'après les dernières statistiques de la Banque centrale, la dette ghanéenne s'est établie à plus de 65% du produit intérieur brut. Pour 2018, le Fonds monétaire international table sur une croissance à 6,3%, puis à 7,6% en 2019. Et enfin, le Maroc, qui va investir plus de 28 milliards de dirhams sur la période 2018-2021, à raison de 7 milliards par an, selon son ministre de l'Équipement et du Transport, Abdelkader Amara. Les investissements dans les infrastructures routières connaissent une progression notable ces dernières années.
Place sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Mondial féminin de basket, au moins une équipe en quart de finale.
Déjà entré dans l'histoire du continent africain en dominant la Turquie puis l'Argentine en phase de poule de cette Coupe du Monde, le Nigeria a créé l'exploit aujourd'hui en battant la Grèce 57-56 au terme d'un match que les Dee Tigress ont globalement dominé sous l'impulsion de Marie Emanuela Fasula, 18 points pour la Nigériane. En quart de finale, les Nigérianes seront opposées aux presque invincibles américaines. Le Sénégal joue sa qualification ce soir contre l'Espagne. La Chine, elle, s'est qualifiée pour les quarts de finale au détriment du Japon, 87-80.
La liste des Lions indomptables pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Ah oui, la Fédération camerounaise a publié les noms des 23 Lions appelés pour la double confrontation face au Malawi. Ce sera en octobre prochain en vue des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une liste qui comprend Christian Bassogog, alors que le sélectionneur Clarence Seedorf avait assuré qu'il ne convoquerait plus des joueurs du championnat chinois, provoquant la fureur et la retraite internationale de l'un d'entre eux, Benjamin Mukanjo. Il y a aussi dans cette liste le retour en sélection de Clinton Jie, sanctionné pour avoir fait venir des filles dans sa chambre lors d'un rassemblement de l'équipe nationale. On pourrait aussi s'attarder sur le comeback du défenseur Jean-Armel Kanabiik, dont l'histoire en sélection camerounaise a été assez irrégulière.
De l'eau dans le gaz entre Pogba et Mourinho.
Paul Pogba a été informé par José Mourinho qu'il ne serait plus jamais capitaine des Red Devils aussi longtemps que le technicien portugais serait manager à Old Trafford. Révélation du quotidien anglais The Times, alors que la tension ne cesse de croître entre le champion du monde français et son entraîneur portugais, Pogba, promu capitaine des Red Devils à 3 reprises cette saison, avait critiqué la tactique défensive de son équipe lors du match de Première Ligue la semaine dernière.
Duel à distance en Série A entre Naples et la Juventus.
Déjà détachée en tête du championnat d'Italie, la Juventus Turin et Naples s'affrontent ce samedi pour un choc qui vaudra cher. Mais avant ce duel au sommet, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers accueillent ce soir Bologne. Naples, de son côté, qui compte 3 points de retard sur le leader, joue contre Parme. Et hier soir, l'Inter Milan a battu la Fiorentina 2-1.
Transfert.
Sans club depuis son départ de Moreirense le mois dernier, Ousmane Dramé reste au Portugal. L'ailier franco-malien s'est engagé jusqu'en juin 2020 en faveur de Belenenses, où évoluent également Zakaria Berdic, Hassen Yedda et Merlin Tanjigora. Enfin, on parle de l'ailier argentin Angel Correa qui a prolongé son contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2024.
Merci Nicolas. De retour avec vous, Morgane Guiriec et Peggy Wabino. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Le président congolais Joseph Kabila a, dans son discours devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, réclamé le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus en RDC, 20 ans après 20 ans de mission dans le pays, une demande pressante alors que les élections doivent se tenir le 23 décembre dans le pays.
Dit Isango, adjoint pour une analyse, le coordonnateur du CORD, Comité des droits de l'homme et du développement, Alphonse Longango.
La force des Nations Unies était venue pour stabiliser les pays et c'était au moment où le pays était divisé en 4 parties et occupé par des forces rebelles. Aujourd'hui, c'est quand même une mission qui coûte extrêmement cher. Il faut voir aussi dans le contexte actuel des élections, est-ce que c'est le temps de pouvoir les demander? À mon avis, c'est non. Il faut d'abord que les élections puissent avoir lieu et qu'on ait effectivement des institutions en place qui pourront assumer les responsabilités de pouvoir pacifier les pays. Et à ce moment-là, il y aura effectivement le passage des forces entre les forces des Nations Unies et les forces nationales et l'armée nationale.
Mais les groupes rebelles ont toujours été là et n'ont jamais été éradiqués. En 20 ans, la mission des Nations Unies n'a pas réussi à les éradiquer. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a 20 de personnes qui ont été massacrées, même à Beni, où il y a des soins qui sont prodigués aux personnes souffrant d'Ebola.
Oui, c'est la question qui fâche aujourd'hui le peuple congolais de manière générale. Ça veut dire qu'il faut voir aujourd'hui, est-ce que les forces des Nations Unies en RDC sont venues combattre les forces négatives, ça signifie les ADF, les Maïmaï et les autres. Alors, si on dit par oui, on pourra dire que bon, ils ont échoué. Mais si cette mission revient aux forces armées de la République démocratique du Congo, à ce moment-là, quel est le mécanisme de collaboration entre les deux forces qui existent aujourd'hui? Est-ce que les forces de MONUSCO aujourd'hui ont refusé d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour pouvoir combattre les forces négatives? Quels sont les moyens mis en place? Je pense que c'est autant de questions à évaluer pour pouvoir prendre une décision responsable.
Dans le même temps, le président Joseph Kabila a demandé que les moyens soient dotés aux Nations Unies pour qu'elles deviennent plus effectives. Pensez-vous que sa mission en RDC n'a pas suffisamment de mandats pour combattre ces groupes armés?
Ce qui est important aujourd'hui, c'est de clarifier la mission, l'objectif de cette mission aujourd'hui par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Nations Unies manquent de moyens.
Parlant des forces ou des mandats de la mission des Nations Unies au Congo, elle est passée de l'ONUC à la MONUC et de la MONUC à la MONUSCO avec des mandats renforcés chaque fois.
Pacifier le pays ou stabiliser le pays? Stabiliser le pays sur quelle base? Je crois que c'est aussi le fait que l'objectif a été mal fixé, qu'aujourd'hui les résultats restent mitigés.
Alphonse Longango, coordonnateur du CORDOD, Comité des droits de l'homme et du développement à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Elle n'a que 17 ans, mais elle est déjà romancière. Mélissa Delahi Ouansou est la nouvelle révélation de la littérature béninoise. Sa première parution, Un pari dangereux, s'est avérée être un pari gagnant, Xavier Fogobon.
17 ans et déjà romancière, Mélissa Delahi Ouansou est la nouvelle révélation de la littérature béninoise. Sa première parution, Un pari dangereux, a été un pari gagnant.
Je suis écrivain depuis mon bas âge, depuis la classe de CE1. J'écris parce que c'est ce que j'aime et j'ai commencé par écrire parce que les mots me permettaient de mettre sur du papier ce que je ressentais. Par rapport à mon roman Un pari dangereux, je l'ai écrit un peu sur un coup de tête. Mais j'aime bien dénoncer les problèmes psychologiques, j'aime bien dénoncer les coups bas de la vie. Donc c'est parti tout seul. Les chapitres sont venus au fur et à mesure que j'écrivais. C'est une romance sulfureuse avec des personnages au charme parfois discret, mais au charme parfois un peu plus tempéré.
Paru le 1er juillet aux éditions Jet d'encre, Un pari dangereux est l'histoire de Catherine, 25 ans. Violée à 16 ans, elle développe une rancœur pour la jante masculine. Un roman de 282 pages qui a séduit les lecteurs.
La plume de Mélissa est une plume en maturation. Parce qu'elle s'inspire de tout ce qu'elle voit. Elle ne reste pas juste calquée sur ses réalités, mais elle découvre. Donc tous les lecteurs peuvent se découvrir en elle et en sa plume. Ce qui m'a captivé dans le livre, c'est comment Mélissa décrit les endroits. Des fois, on a l'impression qu'elle a vraiment été là-bas. Sa manière de décrire est originale. Mettre en valeur ce qui est caché, ce qu'on ne peut pas comprendre dès le début, et le montrer d'une autre manière.
Après Un pari dangereux, Mélissa s'intéresse maintenant à la science-fiction et au drame avec ses histoires La planète aux yeux verts, déjà achevée, et Tentation en édition, encore en cours de rédaction. Comme toute adolescente, elle a un rêve et des ambitions.
L'écriture, c'est une thérapie pour moi. Quand je n'écris pas souvent, je suis stressée. Donc j'aimerais toujours continuer par écrire. Mais également, j'aime bien l'univers du cinéma. Donc j'aimerais écrire des scénarios. J'aimerais également être psychologue, comme je l'ai dit, parce que la santé mentale est très importante pour moi.
Le rêve d'écrivain de Mélissa Rouinsou est de pouvoir impacter par ses mots, car pour elle, lire n'est pas seulement ludique, mais aussi didactique.
Raïssa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, l'Afrique à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole dans le Palais de Verre de New York pour faire entendre leur voix et point de vue sur les crises du monde et du continent. Quels ont été les discours les plus marquants? Quel financement et quel avenir pour les missions de maintien de la paix en Afrique? Comment œuvrer pour la paix alors que l'Afrique n'a pas de siège permanent au Conseil de sécurité? Et enfin, quelle solution pour la crise migratoire? En direct de New York, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
En Angola, José Filomeno dos Santos, ancien patron du Fonds souverain angolais, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, est placé en détention provisoire. À Luanda, le parquet général précise que c'est le cadre d'une affaire de détournement de fonds portant sur 1,5 milliard de dollars.
Idriss Fall a recueilli la réaction de l'opposant Abel Chivukuvuku, leader de la coalition dite CASA CE à Luanda.
Nous avons eu pendant des années un gouvernement qui a été caractérisé spécialement par la corruption, la malgestion. Avec un nouveau président, nous espérons que tout soit fait pour moraliser la société. Si cela implique quelques-uns devenir détenus, tout ce que nous espérons, c'est que tout le processus soit fait de façon légale, en respectant les droits des citoyens, mais surtout la loi pour tous, tous les Angolais, ont le même droit envers la loi.
Ce n'était pas le seul fils de Santos aux affaires. On parle aussi d'Isabelle, qu'on présente comme la femme la plus riche du continent.
Il y aura certainement d'autres personnalités inculpées qui devront aussi faire face à la justice. Ça n'intéresse pas qui est fils de quoi ou de qui. Ce qui intéresse, c'est le citoyen qui a eu des responsabilités, il y a eu des malversations. C'est là la question fondamentale.
Mais il y a eu des malversations, mais il y a beaucoup d'argent qui se trouve encore à l'étranger.
Il faut d'abord relancer les processus judiciaires avec les tribunaux. Deuxièmement, il faudra récupérer l'argent angolais qui se trouve à l'extérieur dans les mains des gens qui ne devaient pas avoir cet argent. C'est-à-dire, il y a des phases. La première phase, c'est l'instruction des processus judiciaires. Ce qui est en train d'être fait maintenant. Il y aura certainement une deuxième phase pour récupérer l'argent qui se trouve à l'extérieur.
Est-ce que vous pensez que le président João Lourenço ira jusqu'au bout?
Il n'a pas une autre sortie. Agostinho Neto a été pour le président qui a proclamé l'indépendance. Qu'on le veuille ou pas, s'il a fait bien ou pas, De toute façon, il a proclamé l'indépendance. José Eduardo dos Santos, dans la dernière phase, a eu une gouvernation très mauvaise, presque criminelle. Il faut reconnaître qu'il a hérité d'Agostinho Neto un pays en guerre et a laissé pour João Lourenço un pays en paix. Il a hérité d'Agostinho Neto un pays de parti unique totalitaire et a laissé une démocratie ouverture pas très bonne, pas très perfecte, mais de toute façon un pays libéral et multipartidaire. Il a hérité d'Agostinho Neto un pays avec une économie de planification centrale, ce qu'on disait le communisme. Il a laissé à João Lourenço un pays avec une économie libérale de marché. Mais les dernières années, c'était vraiment terrible, c'était presque criminel. Alors, João Lourenço a besoin de changer le cap pour le pays, vers l'avenir. Et pour cela, il faut moraliser la société. Et nous tous le soutenons dans ce procès.
Abel Chivukuvuku, leader de la coalition dite Casa CE à Luanda.
Malawi s'investit dans le développement de son tourisme avec plusieurs attractions, notamment les parcs nationaux, les réserves de chasse et les montagnes. Le gouvernement a mis au point un plan stratégique visant à attirer plus de touristes dans le pays. La Mecque Massina s'est rendue sur place et Blanche Sanou nous fait le récit.
Dans les rues de Blantyre, la capitale touristique et commerciale du Malawi, un carnaval bat son plein au bonheur des habitants et des touristes. Cet événement entre dans le cadre des activités de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain. Les opérateurs touristiques ont ouvert des pavillons pour présenter leurs produits et services. Christine Chimangeni est l'organisatrice de l'événement.
Nous ne pouvons pas informer un touriste étranger au sujet du Malawi si nous-mêmes ne savons pas ce que le Malawi a à offrir en la matière. Nous souhaitons donc promouvoir le tourisme local et par conséquent améliorer également le tourisme étranger.
Selon un rapport du Forum économique mondial sur les voyages et le tourisme, le Malawi se classe parmi les pires pays au monde. Le tourisme y est sérieusement entravé par la médiocrité des infrastructures de transport aérien. Mais les autorités affirment qu'elles travaillent sur un plan stratégique pour remédier à ce problème, comme nous l'explique Isaac Katopola, directeur du tourisme.
Il est clair que l'aéroport international Kamusu a besoin d'attention. Heureusement, le gouvernement est en train de procéder à son extension.
Pour promouvoir le tourisme, le gouvernement soutient l'association caritative pour le bien-être des animaux, African Park. Cet organisme lutte pour la protection des animaux, comme les éléphants, les guépards et les lions, dans divers parcs nationaux du pays. En plus, les autorités ont répondu aux appels des opérateurs touristiques concernant les visas touristiques.
Les frais de visa seront ramenés de 75 à 50 dollars, ce qui correspond à ce que nos collègues zambiens, zimbabwéens et tanzaniens facturent, de sorte que nous puissions uniformiser les règles du jeu.
Des mesures dont se félicitent la plupart des opérateurs touristiques, comme nous l'explique Mike Chibwana de l'agence Skylink.
Cela montre que le gouvernement est engagé, les touristes et toutes les parties prenantes de l'industrie sont satisfaits à l'idée que nous aurons un plus grand nombre de touristes.
Selon les autorités gouvernementales, ces initiatives pourraient stimuler le PIB du Malawi de 7,7% cette année.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Dan Crafton, à la présentation Morgane Guerriec et Peggy Wabeno de Top Congo FM, qui est actuellement à Washington. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.